Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Rémi Vialcollet, président de Faire Promotion. Bonjour Rémi.
Bonjour Myriam.
Alors Faire, on a vu un joli drapeau avec sur un joli bateau au MIPIM il n'y a pas si longtemps que ça. Racontez-moi Faire Promotion, c'est un nouveau nom, un nouvel ADN ?
Alors déjà merci de m'inviter et de me donner la chance de vous présenter un peu l'entreprise. Derrière Faire Promotion, c'est le groupe Promogérim déjà, et donc c'est
d'accord.
Une entreprise qui l'aventure a démarré en 1985 avec Yves Jouiteau, qui a développé jusqu'à il y a très récemment l'entreprise. Une histoire familiale. En 2008, son aîné le rejoint, puis deux des trois derniers.
Mais donc vraiment une lignée familiale,
voilà, lignée. Trois des enfants qui travaillent avec lui, un groupe familial avec toutes les valeurs que ça engendre en termes d'agilité, d'engagement, d'écoute et de tenue des engagements pris.
Donc vous étiez chez Vinci Immobilier à l'époque.
Oui, hein. Alors même avant, j'étais en 85, j'étais même à l'école maternelle. Mais j'étais chez Vinci Immobilier. C'était effectivement au moment où je les ai rencontrés. Donc entre 85 et 2016, quand j'ai rencontré, il s'est passé beaucoup de choses pour Promogérim, beaucoup d'opérations à Corbeil avec l'époque de Monsieur Dassault. Le territoire s'est ensuite élargi. Plus récemment, 2014, c'était l'arrivée du groupe à Villejuif, où le groupe a réalisé 700 logements sur le Zac Aragon avec la SADEF 94. 33 000 m² de bureaux et un hôtel, et aussi une opération sur l'hôpital Paul Guéron en copromotion avec Vinci Immobilier. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Yves Jouiteau.
Donc c'est à ce moment-là que, l'idée de rejoindre le groupe...
Alors non,
c'était
pas si rapide. En 2016, j'ai découvert cette entreprise dont j'entendais parler, mais effectivement un petit acteur en région parisienne. Et on a commencé à développer une amitié, d'abord professionnel, ensuite personnel. Et quand moi, à l'aube de mes 40 ans, je me suis décidé à faire un virage complet, c'est-à-dire qu'après Polytechnique et 16 ans dans des grandes boîtes, je me suis dit l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui m'attire et j'aimerais bien essayer. Je lui en ai parlé et fin 2021, il m'a proposé de rentrer. Lui, ça l'arrangeait parce qu'il avait une problématique.
D'accord, donc c'est pas l'idée, vous n'êtes pas venu d'ouvrir votre propre boîte, de créer votre propre boîte de promotion.
Non, je me posais la question, mais comme beaucoup de salariés de grands groupes, on se pose la question
sauter
sans
pas,
jamais
c'est
oser.
Difficile.
Exactement.
Ouais, ouais.
Sauter vers l'inconnu. Et moi, c'était rassurant. Mmh. C'était qu'il y avait Yves Jouiteau dans le montage. On a décidé de faire ça début 2022. Sauf que 2022 a été assez chargé, puisque entre les difficultés à financer mon arrivée et le décès soudain d'Yves Jouiteau le 30 juin, on s'est retrouvé un peu tout seul.
Il n'y a pas longtemps.
Exactement. On s'est retrouvé un peu tout seul à la barre avec ses enfants de l'entreprise. Et au final, ça a soudé un collectif.
Donc aujourd'hui, posé la question d'arrêter.
Non, alors la question s'est posée au moment du décès, puisqu'on n'avait rien signé, etc. Et pour moi, c'était un engagement moral. C'est-à-dire qu'on m'avait donné la chance d'arriver dans cette entreprise quarantenaire et j'étais trop parti dans ma tête déjà là-dedans pour arrêter.
C'est déjà dans cette nouvelle histoire.
Exactement. Et quand on est au pied du mur et qu'on n'a pas le choix, on ne se pose pas la question d'est-ce qu'on peut être entrepreneur ou pas. On le devient tout de suite et on découvre.
Donc recréer une marque dans l'immobilier aujourd'hui, c'est quand même pas évident. C'est une nouvelle capacité à faire différemment, à faire tous ensemble. C'est quoi l'idée ?
Déjà, pourquoi changer le nom, le nom grand public de l'entreprise ? C'est parce qu'on avait un nom qui ne voulait rien dire et qu'on confondait.
Bien sûr, évidemment.
Et qu'on confondait, je ne vais pas citer les gens avec qui on nous confondait,
bien sûr.
Et donc, on s'est dit, comment se différencier lorsqu'on est un ETI de la promotion
immobilière ? C'est un joli nom, en tout cas, à faire.
Oui, merci. Et du coup, on s'est dit, on va puiser dans l'ADN de la boîte et aussi être en ligne avec la transformation que j'ai enclenchée en arrivant dans l'entreprise pour moderniser l'entreprise. Donc, on est quoi ? On est un acteur engagé et agile. Parmi les actionnaires, je suis le plus âgé. C'est plutôt toute notre histoire jusqu'à la retraite, peu importe quand elle arrivera, mais donc on a envie de bien faire. Donc d'en faire, il y a bien faire, et aussi faire du bien. Donc pour nous, la manière, elle importe autant que le but. C'est-à-dire que bien faire, c'est déjà que nos collaborateurs soient bien dans un cadre de travail familial, humain et attractif. C'est aussi d'avoir une vraie écoute avec les élus et nos partenaires.
Alors justement, c'est quoi ? Moi, j'ai besoin de creuser un tout petit peu plus, savoir, voilà, en quoi votre parole, elle est différente des autres promoteurs par rapport aux élus, en quoi le faire ensemble avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, architectes, bureaux d'études, etc., est différente, parce que pour l'instant, vous travaillez principalement sur des opérations qui étaient déjà dans les tuyaux, on va dire, en 22, 21, etc., avant que vous arriviez. Donc, en quoi vous allez faire différent avec cette équipe dont les enfants issus du créateur, hein?
Alors, le premier sujet, c'est que quand on se dit partenaire, ça va dans les deux sens. Donc, vous êtes partenaire avec un élu, vous lui apportez des solutions sur son territoire, c'est facile de venir faire une opération, normalement.
Oui, c'est plus, one shot, et puis on s'en va.
Je vous disais, on est des acteurs du long terme, et quand vous êtes face à un élu, que c'est vous qui prenez la décision, que c'est vous qui êtes au capital, la parole a quand même plus de poids. Alors, ça a été comment ? On parle des partenaires, les entreprises, les architectes, etc. C'est de se dire que, plutôt que de faire des consultations, de mettre en concours les gens, de les saigner, etc., on choisit nos partenaires, et ensuite, on leur assure un relan d'activité récurrent avec nous, ce qui permet
de les rendre sereins,
et nous d'avoir une capacité de conseil de leur part. C'est-à-dire quand on est en conception et qu'on a une entreprise de gros œuvres qui vient avec nous à nos côtés chiffrer tout ça, etc., on est plus serein, et donc il y a moins de sécurité sur le coût technique, et donc ça veut dire qu'on travaille à faire baisser le prix au final et d'être plus compétitif ensemble. Et donc c'est pour moi une erreur de penser que la mise en compétition systématique
est la seule solution. Ça stimule pas, c'est un frein.
Voilà, est la seule solution à l'émulation. Voilà, c'est un peu le problème. Par rapport aux élus, c'est simple. C'est-à-dire que nous, on a une petite foncière qui est un peu un couteau suisse. Alors, vous avez la problématique des commerces de pied d'immeuble. Donc, on vient porter notre premier commerce de pied d'immeuble au long cours pour qu'ensuite les élus, la ville, soient contentes de la mise en location des commerces. Il y avait un problème dans des copropriétés de se dire comment on fait pour avoir des gardiens dans des copropriétés. Si vous laissez un logement à disponibilité du gardien qui appartient à la copropriété, c'est bien normal, la première AG, elle va vendre le logement pour faire des économies de charges. Voilà. Donc nous, on est propriétaire de logement.
Donc vous gardez ce logement.
On est propriétaire de logement qu'on met en location.
C'est-à-dire sur toutes les opérations maintenant, vous gardez en patrimonial ce logement, ou peut-être d'autres, mais ce logement-là qui sera affecté au gardien,
dans le cas où, par rapport à la taille de la copropriété, on estime
qu'il va y avoir
100 logements. Ouais. Et donc là, on met cette possibilité dans les mains de la ville, en disant, si vous voulez, nous, on peut le faire. Nous, ça ne nous coûte pas grand-chose, parce qu'on immobilise, bien sûr, de l'argent au long cours, mais on vient mettre en location...
Comment on fait pour imposer ça à une copro ?
Ah ben en fait le choix ne se fait pas, c'est-à-dire que on garde un appartement, nous comme un privé,
dedans, vous en faites ce que vous
et
voulez.
Simplement on le propose à la copropriété en location pour le concierge. Donc si la copropriété ne veut pas de concierge, en attendant on peut le louer autrement ou en temporaire.
Oui, ou vous attendez que le besoin se fasse sentir, parce que quelque part, quand on vient d'acheter, on n'a pas toujours le ressenti de savoir si un gardien est utile ou pas. Ouais. Comment fait-on du coup pour faire différemment ? Par exemple, aujourd'hui, on a quand même des problématiques de taux d'endettement, des ménages qui ont vraiment du mal à acheter. Vous êtes obligé d'avoir plus de créativité ?
Oui, alors il faudrait peut-être déjà se rappeler un peu les enjeux et qu'on les a en tête.
Il manque de logements en France
et que entre 96, ça c'est les chiffres de l'INSEE, entre 96 et 2019, il faudrait que je les réactualise, mais le prix des logements pour les Français a augmenté de 158%. Là,
incroyable.
Leur revenu a augmenté de 58%.
Ouais.
C'est-à-dire que le logement a monté trois fois plus vite que le revenu.
Donc qu'aujourd'hui, la quote-part du remboursement de prêt ou du loyer correspondait à peu près à 20%. Et maintenant correspond à, on peut pas plus que 33, ou 30, mais ça correspond à 40, voire 50% de son revenu.
Et ça c'était le monde d'avant 2022. Parce que dans 2022, la crise des financements fait que, effectivement, le marché de l'accession à la propriété est complètement à l'arrêt. Et donc, on se retrouve dans une situation où vous avez l'Île-de-France, par exemple, qui accueille 100 000 personnes par an, nouveaux habitants, même si Paris se vide, l'Île-de-France se remplit. Et du coup, une production de logements qui baisse. Donc, la question, c'est comment on fait avec, dans ce contexte de hausse des prix, etc.,
très peu d'offres. Effectivement, il n'y a pas assez d'offres.
Jean-Philippe Dugan-Clément disait il y a 3 ou 4 jours qu'on était face à une bombe sociale
bien
à retardement. Moi, j'en suis convaincu. Et donc, c'est. Alors, idéalement, ce serait que le gouvernement aboutisse à des nouveaux schémas d'aide, en tout cas pour tenir le logement abordable, sachant que la question de l'aide à la pierre est toujours une question où personne n'a trouvé vraiment la solution pour l'instant. En attendant, ce qui est, je trouve, assez beau dans notre secteur, mine de rien, c'est que les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières
aménageurs.
C'est-à-dire
que vous avez vraiment l'impression, c'est ça, vous avez l'impression que quoi ? En un an, d'un seul coup, on est devenu plus collectif, plus vertueux, on se parle, on s'écoute ? C'est quoi, c'est cette crise qui a fait qu'on s'est dit d'un seul coup, tiens, si on se parlait ?
Non, je pense que ça a démarré plus tôt avec une problématique de financement des collectivités locales.
C'est-à-dire
quand vous avez enlevé la taxe d'habitation,
donc
de moins en moins de revenus pour faire des projets. Et donc, il faut fatalement partager la charge du projet entre le public et le privé. Et donc, ces montages
mixtes... c'était aussi, quelque part, obliger les promoteurs à mettre un petit peu plus au porte-monnaie pour pouvoir payer en partie quelques équipements. Donc ça, c'était... parce que ça s'est fait. Mais là, le faire ensemble, c'est quoi ?
Le faire ensemble, c'est aujourd'hui... on a des partenariats avec certains bailleurs, je pense à Séquence par exemple, où ensemble on va aller développer des affaires. Et en fait, quand on est côte à côte sur un projet, c'est mieux que si on le développe 100% pour eux ou que le font 100% pour nous, pour eux, pardon, excusez-moi.
Donc ça veut dire que sur certaines emprises de foncier Séquence, vous venez en partenariat faire quelques bâtiments en accession,
pour faire la mixité. Mais c'est aussi sur des fonciers qui sont pas à eux, d'aller gagner ensemble une opération où eux vont réaliser la partie logement social ou logement intermédiaire parce que vu que ce sont des acteurs de long cours, ils amortissent différemment les coûts, etc. Et nous réaliser l'accession. Mais ça, c'est le niveau basique un peu de la collaboration parce qu'après, vous avez les aménageurs qui rentrent en jeu. Il y a de plus en plus d'aménageurs aujourd'hui qui se disent effectivement...
Font du logement.
Et c'est pas juste pour le plaisir, etc. C'est-à-dire que l'équilibre des opérations, sinon, ne tourne pas, en fait.
Donc, venir à chaque fois en partenariat.
Voilà. Ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, c'est comment on gère le foncier. Et donc, c'est le rôle de l'EPIF qui est déjà un acteur plus qu'important en Île-de-France, mais aussi...
Créer son propre foncier, parce qu'il y a peut-être des petites pépites quelque part, non ?
Nous, on fait ce qu'on appelle des coûts, c'est-à-dire qu'on porte des fonciers au long cours dans des zones qui vont muter, toujours avec l'accord des élus. D'ailleurs, des fois, là, on est en train de... Je communiquerai dessus une fois que ce sera calé, mais de mettre à disposition d'une association une partie de notre patrimoine pour qu'on se dise que ce portage au long cours et un peu aussi une utilité sociale en attendant. Donc nous, ça nous coûte rien en plus, donc ou peu. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait que les valeurs de la boîte, elles sont là depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est de structurer un peu la démarche, notamment avec un fonds de dotation. Donc, on a créé ça en février. L'entreprise, elle était partenaire d'associations depuis 10 ans, notamment Solidarité Architecte Développement, qui a permis de faire une école et des centres de soins à Madagascar. Mais là, on s'est dit, on se recentre sur le mal-logement, le mal-être en ville, et donc les questions d'inclusion. Et ça va être notre thématique. Il y en a d'autres, et c'est très bien qu'ils le font sur la formation, etc. et tout. Nous, ce qui nous touche, même si on est un acteur qui ne fait pas que du logement, c'est la problématique, notamment en Île-de-France, en tout cas en métropole, de la problématique d'inclusion et d'accès au logement.
Mais c'est tout à... Vraiment, c'est un univers. Et donc aujourd'hui, je pense que faire, c'est effectivement le faire promotion. Bientôt peut-être plus promotion mais juste faire puisque justement on parle de le bien-être en ville, l'accès au logement pour les démunis, c'est aussi du faire, c'est bien évidemment du faire, non ?
Ah oui, tout à fait, alors on était très heureux d'avoir trouvé ce nom au final parce que c'est 100% nous, on s'est vraiment posé la question quand vous êtes comment on se différencie, on fait pas 100% pierre, on fait pas du 100% bois, on est un acteur agile mais un acteur familial, OK, c'est quoi qui est différent là-dedans. Et donc, c'est ce qu'il faut maintenant, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de la preuve à côté du discours. Donc, on va bientôt avoir des éléments concrets pour appuyer tout ça sur l'état d'esprit des actionnaires qui sont dirigeants de l'entreprise.
Vous viendrez dans quelques mois au micro nous parler justement de ces nouvelles opérations.
Exactement.
Sur lesquelles vous pourrez peut-être un peu plus communiquer.
Exactement, il y a pas mal de choses en permis d'ailleurs. Donc,
À bientôt.
Voilà.
À bientôt Rémi, merci.
Merci.
À bientôt chers auditeurs. Hein.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.